Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 21 juin 2023. Au Mali, le taux de participation au référendum sur une nouvelle constitution estimé à 38% après dépouillement des votes dans la quasi-totalité des bureaux. Au Sénégal, pouvoir et opposition organisent chacun son propre dialogue. Au Soudan, les combats reprennent à Khartoum à l'expiration de la trêve. En Somalie, attaque djihadiste contre une base militaire au début du retrait des forces de l'Union africaine. Le président américain Joe Biden qualifie son homologue chinois de dictateur. Pékin proteste. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Trois jours après le scrutin référendaire, l'autorité indépendante de gestion des élections a partagé aujourd'hui les premières tendances en attendant les résultats provisoires définitifs prévus pour vendredi prochain. On parle du Mali. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Maître Moustapha Cissé, a rencontré la presse nationale et internationale pour faire le point des opérations de la Commission nationale de centralisation des résultats.
La Commission nationale de centralisation reçoit les procès-verbaux transmis sous enveloppe scellée et cachetée qui sont comparés avec les résultats transmis électroniquement sur la plateforme. À ce jour, à l'heure où je vous parle, au regard du niveau de traitement des résultats acheminés à l'aide et comparé avec les résultats électroniques transmis sur la plateforme, la Commission nationale de centralisation est en mesure d'assurer et d'annoncer avec certitude que plein de 24 000 bureaux de vote sur un total de 24 416 ont été traités.
Ce point de presse était très attendu pour éclairer sur le taux de participation que la mission d'observation des élections au Mali avait estimé à 28%.
Ce stade de la centralisation des résultats, de l'intérieur et de l'étranger, le taux de participation est de 38%. Ce pourcentage ne concerne que les résultats du scrutin général du 18 juin 2023. Et est susceptible d'évoluer favorablement avec l'arrivée continue des résultats et la prise en compte dans le décompte final du vote anticipé.
Voilà, c'était le référendum au Mali dont le taux de participation est estimé à 38%. En Guinée, le procès de l'ex-dirigeant militaire Moussa Dadis Camara, jugé pour le massacre du 28 septembre 2009, a repris après trois semaines de suspension à cause d'un boycott des avocats pour raisons financières. Ce procès ouvert le 28 septembre 2022 a été suspendu le 29 mai, les avocats refusant de plaider parce qu'ils disent n'avoir toujours pas été payés depuis au moins 8 mois. L'un des avocats des parties civiles, Maître Aboubacar Sidiki Camara, a indiqué qu'un règlement a été trouvé entre le collectif des avocats et les autorités avec la médiation de personnes de bonne volonté. Au Sénégal, le mouvement F24, qui regroupe une centaine de partis politiques et d'organisations de la société civile, vient de lancer le dialogue du peuple en réponse au dialogue national lancé par le président Macky Sall il y a 3 semaines. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Le F24 a décidé de lancer sa propre initiative dénommée Dialogue du Peuple pour contester la légitimité du dialogue national qui se tient depuis 3 semaines à l'initiative du président Macky Sall. Pour l'opposition dite radicale, le régime ne peut pas détenir arbitrairement un opposant, en l'occurrence Ousmane Sonko, réprimer violemment des manifestations, restreindre les libertés et appeler à un dialogue. Un constat qui a donc poussé les membres de la plateforme F24 à lancer leur propre dialogue avec deux thèmes principaux, la justice et le troisième mandat. La première phase de ce dialogue parallèle organisé par le F24 devrait être bouclée ce vendredi. C'est en cette fin de semaine que sont également attendues les conclusions du dialogue national où sont annoncés des accords phares, parmi lesquels la réhabilitation de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et de Karim Wade, fils de l'ancien président, Abdoulaye Wade. Seydina Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
Au Soudan, les combats entre l'armée et les paramilitaires ont repris ce matin, peu après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures. Le point avec Nani Talani.
Les habitants de Khartoum disent avoir été réveillés par les tirs d'artillerie quelques minutes après la fin de la trêve de 72 heures qui avait commencé dimanche. Omdurman, la banlieue nord de la capitale, a été la cible de pillonnage et de combats, tandis que des avions de chasse ont survolé d'autres quartiers proches. D'autres habitants ont fait mention d'explosions, de tirs nourris et des obus qui ont frappé des quartiers résidentiels de Diling dans le Kordofan Sud, à 500 km au sud de Khartoum. L'armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo, s'était engagée à cesser tout mouvement pour laisser passer l'aide humanitaire. Mais mardi soir, au dernier jour de la trêve, un immense incendie a ravagé le siège des services de renseignement dans la capitale. L'armée accuse les paramilitaires d'avoir bombardé le bâtiment. Les forces de soutien rapide affirment pour leur part qu'un drone de l'armée a bombardé le bâtiment où étaient regroupées des troupes de FSR, provoquant l'incendie et la destruction partielle du siège des renseignements.
Toujours au Soudan, les deux tiers des établissements de santé dans les régions touchées par le conflit sont hors service, a averti aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, très inquiète face aux épidémies de rougeole, paludisme et dengue. L'OMS a recensé 46 attaques contre des services de santé depuis le début des combats opposant l'armée et les paramilitaires. En Somalie, les islamistes Shebab ont attaqué une base militaire à environ 450 km de Mogadiscio, alors que la force de l'Union africaine a commencé à se retirer de ce pays. Mouamadou Mfa.
Les Chebab ont revendiqué l'assaut dans un communiqué. Ils ont lancé plusieurs attaques suicides contre la base de Badere, où se trouvent des soldats éthiopiens et somaliens. Il y a plusieurs victimes, mais nous n'avons pas de détails jusqu'à présent, a déclaré Abdi Baré, un policier de Badere, qui a précisé que la situation était revenue à la normale. Cette attaque revendiquée par les Chebab intervient alors que la force de l'Union africaine en Somalie a commencé à se retirer du pays en accord avec une résolution de l'ONU qui entérine le retrait de 2000 soldats d'ici juin 2023, selon un communiqué de la force de l'Union africaine. Des soldats somaliens ont pris le relais des forces de l'ATMIS sur une base de l'état de Hir Shabel dans le centre du pays, poursuit le communiqué. La Somalie fait face depuis plus de 15 ans à une insurrection des islamistes Chebab. L'Union africaine a déployé en 2007 une force de 20 000 soldats, policiers et civils, baptisée AMISOM. L'ATMIS a pris le relais de l'AMISOM en avril 2022, avec pour objectif de céder l'entière responsabilité de la sécurité aux forces somaliennes à la fin de l'année prochaine.
Deux jours après un cri d'alarme de l'ONU, Médecins sans frontières a demandé aujourd'hui une augmentation rapide et concrète de l'aide humanitaire pour l'Est de la RDC face à une crise d'ampleur historique au Nord Kivu. Les Nations Unies ont placé la gravité de cette crise au niveau maximal dans l'échelle des organisations onusiennes, note Médecins sans frontières dans un communiqué. Et puis, l'interrogatoire de l'ex-gendarme rwandais Philippe Ategekimana, poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité, a tourné court ce mercredi devant la cour d'assises de Paris, l'accusé refusant de répondre aux questions. Monsieur Ategekimana est poursuivi pour son inculpation présumée dans les meurtres de dizaines de Tutsis dans la préfecture de Boutaré, dans le bourgmestre de Ntiazo, qui résistait à l'exécution du génocide dans sa commune.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 35 personnes sont mortes dans le naufrage d'une petite embarcation qui se dirigeait vers les îles Canaries, a déclaré aujourd'hui l'ONG Walking Borders, spécialisée dans les questions de migration. 59 personnes se trouvaient à bord du canot pneumatique. Les signes d'apaisement n'auront pas duré longtemps entre la Chine et les États-Unis, à peine le secrétaire d'État américain revenu du voyage de Pékin. Le président américain Joe Biden qualifie son homologue chinois Xi Jinping de dictateur, ce qui a entraîné une réaction de colère de la Chine. Les précisions de John Lydon.
Lors d'une réception mardi en Californie, Joe Biden a rangé Xi Jinping dans la catégorie des dictateurs, suscitant la colère de Pékin, qui a qualifié ses propos d'absurdes, faisant référence à la destruction d'un ballon chinois qui survolait les États-Unis. Joe Biden a assuré que c'est très embarrassant pour les dictateurs quand ils ne savent pas ce qui s'est passé, ajoutant que lorsque le ballon a été abattu, Xi Jinping s'est trouvé très embarrassé. Ces déclarations interviennent peu après une visite de deux jours à Pékin du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Sa rencontre avec Xi Jinping a été saluée par les deux pays après des mois de tensions. Pour sa part, la Russie a rayé les contradictions dans la politique étrangère des États-Unis. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, les responsables américains envoient des signaux très contradictoires, ce qui représente un facteur imprévisible.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
L'Afrique du Sud, la Hollande et le Danemark ont lancé mardi un fonds de 1 milliard de dollars pour la transition sud-africaine vers l'hydrogène vert, un carburant fabriqué à partir d'énergies renouvelables et sans émissions de gaz à effet de serre. Mais le président Cyril Ramaphosa estime que la mise en place de cet écosystème énergétique coûtera plus de 17 milliards de dollars. Pretoria veut devenir une plaque tournante de l'exportation d'hydrogène vert, source d'énergie propre, mais aussi d'emploi. Le FMI se dit encouragé par l'avancée des discussions entre la Zambie et ses créanciers sur un éventuel traitement de la dette. Nous pensons qu'un accord pourrait être conclu d'ici quelques jours, ce qui permettrait au conseil d'administration d'envisager le premier examen du programme de Lusaka, soutenu par le FMI d'ici quelques semaines, indique le fonds. Terminons par l'économie du Ghana qui s'est accélérée à 4,2% au premier trimestre 2023, tirée par le secteur des services et l'agriculture, indique l'agence de statistiques. C'est plus que la croissance de 3,7% enregistrée au dernier trimestre 2022. Selon Accra, le secteur des services a augmenté de 10,1% et l'agriculture de 4,8%, tandis que l'industrie s'est contractée.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
La presse sénégalaise s'enflamme après le 4-2 contre le Brésil.
Une victoire 5 étoiles a titré Wolf quotidien, tandis que le quotidien a salué comme d'autres un succès historique. Les heures hivernes ont trouvé à qui parler, s'est enthousiasmé le soleil, ce qui n'a pas empêché le président Macky Sall de tweeter au-dessus du Brésil. L'équipe sénégalaise a triomphé mardi soir du Brésil 4-2. Lors d'un match amical au stade José Alvalade de Lisbonne, grâce à 2 buts de Sadio Mané, un de Mohamedou Diallo et un contre son camp de Marquinhos. Les commentateurs ont apprécié la prestation de Sadio Mané après une saison difficile au Bayern Munich et une Coupe du Monde manquée à cause d'une blessure. Vox Populi a évoqué la résurrection du dauphin du Ballon d'Or 2022. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Aliou Cissé s'est dit très fier de cette grosse performance. Ils ont su hisser leur niveau par moment, même surclasser cette équipe brésilienne, a-t-il déclaré de ses joueurs. Les champions d'Afrique sortaient d'un match compliqué contre le Bénin, 1-0 samedi, en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, où ils remettront leur titre en jeu à partir de janvier.
En Espagne, Toni Kroos prolonge pour une saison avec le Real Madrid.
Le milieu de terrain allemand de 33 ans est désormais engagé jusqu'en juin 2024, a annoncé ce mercredi le club de la capitale espagnole. L'actuel contrat de Toni Kroos s'expire à la fin du mois. Arrivé au Real en 2014 en provenance du Bayern, il a été une pièce majeure de la période dorée que le club vient de traverser. Il a participé à la victoire dans 4 Ligues des Champions, 3 championnats et 1 Coupe d'Espagne, 5 Coupes du Monde et des clubs de la FIFA. Parmi les 20 trophées qu'il a glanés au total avec Madrid, avec la sélection allemande, il a été champion du monde en 2014 et avait déjà gagné une Ligue des Champions avec le Bayern avant d'arriver dans la Maison Blanche pour laquelle il a joué à ce jour 417 matchs.
Draft NBA, on parle de Wembanyama.
Phénomène de précocité, cocktail inédit d'agilité, de technique pour sa taille, Victor Wembanyama affiche à 19 ans une maturité et une confiance inébranlable à son destin. Laisser une marque indélébile sur le basket dont il veut casser les codes, le secret de Polichinelle prendra fin jeudi soir à New York. Victor Wembanyama doit devenir le premier Français numéro 1 de la draft NBA, choisi par les San Antonio Spurs, le début d'un nouveau chapitre de sa vie de basketteur. Son nom sera prononcé par le président de la NBA, Adam Silver, lors d'une cérémonie au Barclays Center de Brooklyn, débutant à 20h. locale, 2h vendredi en France.
Page d'espoir VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le premier ministre indien Narendra Modi est en visite officielle aux États-Unis. Il est attendu à Washington où il va s'adresser au Congrès américain. Il sera reçu à la Maison-Blanche pour un dîner d'État avec le président Joe Biden. De New Delhi, Anjana Parisha explique que les deux puissances partagent des préoccupations mutuelles, dont la Chine. Le récit est de Gabi Dorsil.
Supporting vaccine production.
Avec la visite d'État du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis, le ministre des Affaires étrangères indien a déclaré que les relations entre les deux pays ont considérablement progressé. Subramaniam Jaishankar est le ministre indien des Affaires étrangères.
Le paysage stratégique de la région Indo-Pacifique a changé de façon spectaculaire. Washington et New Delhi reconnaissent qu'ils doivent travailler en étroite collaboration pour stabiliser la situation. Cette clarté stratégique signifie que, pour l'Inde, le renforcement de liens avec un pays aux vues similaires comme les États-Unis est devenu un impératif stratégique.
L'argument le plus fort est la montée en puissance de la Chine. Modi vient aux États-Unis alors que les liens entre New Delhi et Pékin se sont amoindris à la suite d'une impasse militaire de 3 ans qui a incité l'Inde à travailler en étroite collaboration avec Washington pour faire contrepoids à une Chine qui s'affirme de plus en plus, selon Harsh Pant de l'Observer Researcher Foundation.
On peut considérer le volet technologique de la relation, le volet commercial aussi, la convergence politique et les intérêts stratégiques. Je pense donc qu'il existe des arguments très convaincants en faveur d'un renforcement des relations entre l'Inde et les États-Unis.
Pendant son séjour, Modi s'adressera à une session conjointe du Congrès américain. En amont de la visite, le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est montré optimiste.
Nous sommes donc ici à la veille de ce que nous pensons être une visite d'État historique du Premier ministre Modi, qui renforcera ce que le président Biden a appelé la relation déterminante du 21e siècle.
Toutefois, dans un contexte géopolitique changeant, les deux pays ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. L'Inde a fermement défendu le maintien de liens amicaux avec la Russie à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine. Moscou est devenu le principal fournisseur de pétrole brut de New Delhi. Les critiques ont également exprimé des inquiétudes quant au recul de la démocratie en Inde. Mais la visite de Modi s'appuiera sur les intérêts communs, alors que les deux pays, les États-Unis et l'Inde, se concentrent sur leur objectif commun de contrer la Chine. On s'attend à ce que la visite de Narendra Modi renforce une relation désormais considérée comme mutuellement bénéfique pour les deux parties.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Au Burkina Faso, le village de Tchin vit de l'exploitation de l'or. Plusieurs personnes qui ont fui les groupes armés sont venues s'installer dans ce village à 60 km de Bobo-Dioulasso. Orokia Kanko est une femme déplacée qui s'est investie dans l'orpaillage et la restauration. Reportage de Alidou Ouedraogo, notre correspondant à Bobo-Dioulasso.
Situé à une soixantaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso, le site d'Orpaya de Tien est le point de convergence de plusieurs personnes déplacées internes. C'est le cas de Orokia Kanko. Elle a quitté Dédougou à plus de 100 km de Bobo-Dioulasso quand les combats faisaient rage. Ici, elle est restauratrice et en même temps orpailleuse.
Quand les conditions sont favorables, je fais de l'orpaillage pour mes besoins en vêtements, chaussures et autres.
Grâce à cette activité, elle gagne dignement sa vie.
Je peux réaliser un chiffre d'affaires de 13 000 francs CFA par jour. Mais avant, je gagnais plus que cela. Je pouvais gagner jusqu'à 45
000. Au Burkina Faso, plusieurs sites d'orpaillage ont été fermés parce que refuge de groupes terroristes. Sur le site de Tien, des orpailleurs se sont organisés comme le précise Daouda Ouattara, un des responsables des lieux.
Nous avons mis en place un comité de surveillance qui veille sur la sécurité du site qui filtre les entrées. Toute personne étrangère est soumise à un interrogatoire et si nous ne sommes pas convaincus, nous le mettons aux arrêts et le remettons aux forces de défense et de sécurité.
C'est la croix et la bannière pour les déplacés qui arrivent pour la première fois sur le site d'Orpaillas de Tien. Ali Douedraogo, de retour de Tien pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Côte d'Ivoire, les personnes vivant avec un handicap veulent que l'autorité électorale tienne compte de leurs besoins afin qu'elles puissent participer au processus électoral. La Confédération des organisations des personnes handicapées et ses partenaires forment des commissaires locaux de la Commission électorale indépendante pour une meilleure prise en compte des besoins de ses membres lors des scrutins électoraux. Le reportage de Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan.
Ce programme de formation s'articule autour de la prise en compte de manière spécifique des personnes en situation de handicap. Ce projet vise à faire en sorte que les personnes vivant avec un handicap arrivent à participer au processus électoral selon Alfred Kouassi, chef de projet Élection inclusive à la Confédération des organisations des personnes handicapées du Côte d'Ivoire.
Il s'agit de voir comment adapter les lieux de vote pour qu'une personne, par exemple en fauteuil roulant, puisse avoir accès au bureau de vote, pour leur éviter d'avoir les mêmes problèmes comme celui que moi j'avais eu. En fauteuil roulant, j'avais un bureau de vote à l'étage et donc je ne pouvais pas avoir accès à mon bureau de vote. Comment faire en sorte que l'information qui est donnée dans la période électorale puisse être comprise et même perçue par tous, notamment les personnes avec un handicap sensoriel. Et c'est la même chose quand on fait les affiches, que les personnes non-voyantes ne savent pas ce qui se passe.
Les personnes vivant avec un handicap, dans les premiers moments de leur revendication, avaient obtenu, surtout pour les malvoyants, d'accéder à l'isoloir avec la personne de leur choix lors des scrutins. Ce vote sous tutelle, affirme Alfred Kouassi de la COPH, ne garantit pas le caractère confidentiel et secret du vote, plaidant pour que le secret du vote soit garanti pour ces personnes.
La personne de son choix qui l'assiste, assiste aussi au choix qu'il effectue de son candidat. Mais nous n'avons pas le secret de notre vote et c'est pour tout ça que nous voulons que des mesures soient prises pour qu'on puisse garder le secret de notre vote.
Conseillère technique du président de la CEI en charge de la communication, Indira Yanni Domingo, trouve ce projet opportun vu sa pertinence.
Cette formation, justement, permet à nos agents locaux de mieux appréhender la question de l'handicap, hein, par des techniques dans le respect et la bienveillance, malgré les situations d'affluence qu'il peut y avoir dans les bureaux les jours du vote.
Pour les handicapés moteurs, l'accès au bureau de vote est un véritable obstacle. Docteur Koulibaly Abdourahman, formateur, nous en parle.
Cette accessibilité aussi concerne l'accès du bâtiment, mais l'accès aussi aux outils d'élection. Par exemple, les bulletins, l'isoloir et tous ces éléments-là, de telle sorte que son secret de vote soit préservé comme un souterrain à part entière.
Salimata Touré, commissaire électoral départemental de la commune d'Abobo, salue cette initiative.
Les possibilités qu'on nous donne de pouvoir créer des conditions d'accessibilité aux personnes en situation d'handicap au lieu du vote, ça montre que la CEI est soucieuse de prendre tout le monde en compte pour le processus électoral.
Cette formation des commissaires locaux de la CEI est un projet cofinancé par l'Union européenne et l'ONG internationale Mission chrétienne pour les aveugles. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Suite de notre série sur les réfugiés, nous allons à la rencontre d'un jeune réfugié, Aden Abdoulaye. Il a surmonté de nombreuses difficultés en grandissant dans le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, qu'il a fui après avoir décliné une invitation à rejoindre le groupe militant Al-Shabaab en Somalie. Aujourd'hui, il est journaliste et travaille avec la station de radio communautaire pour réfugiés, Radio Garga, soutenue par le HCR. À l'occasion de la journée des réfugiés, le 20 juin, la VOA s'est entretenue avec Abdoulaye sur son travail et ses rêves. Récit, Alexandrine Ollognon.
dans un conteneur situé dans l'un des trois camps de réfugiés du nord-est du Kenya. Aden Abdoulali présente la matinale sur Radio Gargar. Âgé de 25 ans, Abdoulali affirme que sa carrière de journaliste est un rêve devenu réalité. Contraint à l'exil alors qu'il était adolescent, après avoir rejeté un appel à rejoindre Al-Shabaab, Abdoulali explique qu'il aspire à raconter les histoires qu'il a vues pendant qu'il vivait dans le camp.
I have seen a lot of, you know, media gaps in the refugee camps. There is a lot of stories out there.
J'ai constaté de nombreuses lacunes dans les médias des camps de réfugiés de Dadaab. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent, mais personne ne les couvre. C'est pourquoi j'ai essayé de combler ces lacunes et de devenir la voix des sans-voix.
Abdoulali fait partie des plus de 600 jeunes réfugiés qui ont bénéficié d'un programme de formation technique et professionnelle proposé par le Conseil norvégien pour les réfugiés dans les camps. Godfrey Kibé est le responsable du programme de la région de Dadaab pour le Conseil norvégien pour les réfugiés.
Most youths, once they are able to complete primary education, high school, they have limited opportunity.
La plupart des jeunes, une fois qu'ils ont terminé l'enseignement primaire et secondaire, ont peu de chances d'accéder à l'enseignement supérieur, et plus particulièrement à l'université. C'est pourquoi, en tant que NRC, nous avons décidé de nous lancer dans l'offre de compétences techniques destinées aux jeunes. Les compétences que nous fournissons sont davantage axées sur le marché. Nous évaluons le marché et examinons les possibilités qui s'offrent à nous dans l'ensemble de Garissa, mais aussi à Dadaab. C'est à partir de là que nous avons élaboré les différents cours que nous proposons aux jeunes, garçons et filles.
Le réfugié congolais Eli Amouli, journaliste numérique et producteur de télévision en herbe, est également bénéficiaire du programme.
Le fait d'être réfugié ne limite pas les capacités d'une personne. Je pense que les capacités d'une personne qui est, disons, un Kenyan de nationalité, et vous, en tant que réfugié, la seule différence que vous avez concerne le statut. Mais pour le reste, je pense que nous sommes les mêmes.
À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, Aden Abdoulali a couvert une célébration dans le camp de réfugiés. Ce jeune homme de 25 ans, que ses auditeurs appellent communément Murtilé, ce qui signifie une personne formidable en Somalie, explique que sa joie vient du fait qu'il met en lumière des histoires concernant sa communauté dans les camps. Leila Khalif, réfugiée somalienne et auditrice de Gargar Radio, explique que la station est devenue un lien entre la communauté des réfugiés et les agences humanitaires opérant dans le camp.
J'écoute la station pour obtenir toutes les nouvelles et les informations sur ce qui se passe dans le camp, en particulier sur les activités des organisations humanitaires qui opèrent ici. C'est le lien entre nous et les organisations.
Le Kenya accueille plus d'un demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile, principalement en provenance de la Somalie et du Soudan du Sud. En 2021, le pays a adopté une loi visant à promouvoir l'intégration sociale des réfugiés en leur permettant d'accéder à des opportunités d'emploi. Les réfugiés formés comme Abdoulali espèrent que les compétences qu'ils ont acquises leur ouvriront davantage de portes. Washington Forum cette semaine avec Alexandrine Rolognon. De l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place, c'est le thème retenu cette année pour la Journée mondiale du réfugié, une journée célébrée chaque 20 juin pour rendre hommage aux personnes qui ont été forcées de fuir leur milieu de vie. Selon les Nations Unies, à la fin de 2022, on compte plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Qu'est-ce qui est fait dans les différentes zones de conflit en Afrique pour aider les personnes déplacées à retrouver leur communauté d'origine? Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h en temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.